comme ceux d'autrefois, Jean pouvait dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Or, une bien-aimée a eu l'immense honneur de toucher le bord de ton vêtement. Elle a pu recevoir ce dont elle avait besoin. Elle a pu voir ta puissance se manifester dans sa vie. Merci encore ce soir pour nous avoir conduits en ce lieu. Merci pour nous en avoir donné les moyens, la vie, la santé. Puissions-nous mettre cela à profit pour te louer, pour t'adorer, pour te servir, pour témoigner de ta grandeur, de ta majesté et de ta bonté. Et Père Céleste, nous te prions également pour les bien-aimés qui auraient bien voulu être là ce soir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent, que tu les bénisses. Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux ou dans les lits de malades, que tu les bénisses, que tu sois avec eux. Nous en remettons entre tes mains, reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Si nous nous en remettons entre tes mains, c'est avec l'espérance, non seulement l'espérance, mais la conviction que le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Parce que dans tes mains pures, nous pouvons nous y placer par la grâce de ce sang merveilleux qui a coulé à Golgotha. Béni soit ton saint nom. Inspire ta parole encore ce soir et aide-nous pour l'écoute, pour l'audition et pour la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous lirons ce soir dans Exode chapitre 14. Je lirai dans Darby, parce que le titre, je le tirerai de Darby. Exode 14, verset 13. Et l'Éternel dit à Moïse, « Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens et ils entreront après eux, après les fils d'Israël, et je me glorifierai dans le Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié dans le Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit, s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux, et s'éteint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas de l'autre, de toute la maison. Dieu vous bénisse, mais je devais commencer à lire au verset 13, en fait. Verset 13. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, vous demeurerez tranquille. Le reste, on l'a lu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voulais commencer par le verset 13 parce que nous allons en tirer le titre. Vous voyez la délivrance de l'Éternel, tel que c'est donné dans la version Darby. Ça veut dire que la délivrance, nous l'obtenons de l'Éternel. Il n'est aucune délivrance que nous pouvons l'obtenir de nous-mêmes. Il n'y a aucun homme qui peut ainsi asseoir son, comment dirais-je, ne peut asseoir son témoignage sur le fait que si Dieu a opéré des miracles au travers de sa prière, ce n'est pas une raison pour pouvoir, n'est-ce pas, affirmer que son ministère est bon. Amen. Vous savez, Ève a eu Caïn, nous savons, connaissons tous la semence du serpent. Où Ève, il est question que elle a eu Caïn avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez? Et cela ne veut pas dire que c'était sous la bénédiction de l'Éternel. Et ce n'est pas parce que nous prions pour l'un ou l'autre cas et que Dieu y répond que je peux dire, voilà, je suis effectivement serviteur de Dieu. À qui ça? Comment il s'appelle? Judas a prié pour les malades. Il a chassé des démons. Donc ce n'est pas du tout une preuve. Et toute délivrance qu'on obtient, ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas par le fait de l'autorité d'un homme, c'est une délivrance qui vient de Dieu. C'est le travail de Dieu. Et quand une victoire est acquise, ne nous enorgueillissons pas. C'est la victoire de Dieu. 1 Samuel 17. Et nous voulons le dire humblement, parce que nous sommes dans des besoins, dans des grands besoins dans l'assemblée. Nous devons rester humbles. Chaque fois, nous attendre à ce que l'Éternel intervienne en notre faveur. Dans 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. De la même manière, lorsque nous voulons prier en faveur d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, nous prions au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. Et c'est par la foi en ce nom que nous obtenons ce que nous avons demandé. Comme Pierre disait, nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes. Mais c'est la foi en ce nom. Parce que la foi a en elle-même une puissance. David dit aux Philistins, donc tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. La victoire, donc, elle appartient à l'Éternel. Elle ne nous appartient pas. Lorsque nous obtenons une victoire, nous rendons grâce à Dieu. Et il vous livre entre nos mains. C'est le combat de Dieu quand nous livrons de combat. Lorsque nous sommes assaillis par des ennemis, le Seigneur a dit à Moïse autrefois dans Exode 23, Il dit ceci au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Nulle part, vous ne lirez ici, dans Exode 23 ou même avant, où Moïse demande à Dieu de le protéger. Mais c'est une initiative divine. Par grâce, une faveur. Et Dieu lui dit, c'est vrai, il y a des dangers dans le désert. C'est vrai, il y a des problèmes dans le désert. Il y a des serpents dans le désert. Il y a des scorpions. C'est un désert affreux. Dites amen à ça. Mais j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Dans notre marche ici sur terre, il y a des dangers qui nous guettent. Comme dit le cantique, les dangers à court, subtils et inconnus. Mais Dieu le sachant, mais nous bénéficions quand même d'une protection. Parfois même, lorsque nous nous levons le matin, nous oublions même de demander à Dieu de nous protéger des dangers qui nous guettent sur le chemin. Et pourtant, nous avons besoin de protection. Chaque jour, à chaque instant, à tout moment, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est pourquoi j'ai la certitude que j'arriverai. J'arriverai pourquoi ? Dieu dit, il envoie un ange devant moi, n'est-ce pas ? Pour me faire arriver au lieu qu'il a préparé. Quel est le lieu qu'il a préparé? On garde toujours Exode 20. Dans Jean 14, il dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, il y a déjà risque que mon cœur se trouble. Amen. Des tribulations m'attendent. Donc, il y a déjà risque que mon cœur se trouble. Mais il me dit, il me fortifie, il me dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Qui prépare la place? Le Seigneur. On peut être sûr d'une chose. Si Dieu a préparé une place pour vous, si Dieu a préparé une place pour moi, c'est parce que Dieu sait que vous n'échouerez pas en chemin. Ça ne vous réjouit pas, ça? Donc, si Dieu vous a préparé une place, il ne va pas préparer une place et puis commencer à se dire, oh là là, pourvu qu'il arrive, pourvu qu'il réussisse. Non. S'il me prépare une place, c'est parce qu'il est certain d'une chose, que j'arriverai. Dans Jean 17, il dit, je n'en ai perdu aucun. Donc, chacun est arrivé à la place qui lui a été préparée. Si vous n'arrivez pas, c'est que la place ne vous a pas été préparée. Encore une fois, c'est pourquoi toute ma confiance est en lui. C'est pourquoi, quand je chante, je désire le voir face à face, je suis certain que je le verrai. Parce que c'est lui qui a mis ce désir en moi. Alors, il dit, je vais vous préparer une place. Merci Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, avec certitude, cette place-là, nous y arriverons certainement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Qu'importe les difficultés du chemin, qu'importe les obstacles que l'on rencontrera sur le chemin, c'est une affaire divine. C'est Dieu qui prend lui-même la baguette pour me conduire. Et si lui-même prend la baguette pour me conduire, je suis certain d'une chose, j'y arriverai. C'est ça. Le fait d'y arriver ou de ne pas arriver, ça ne m'inquiète pas du tout. J'ai foi que j'y arriverai. Alors, il dit encore à Moïse, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, présence de l'ange, 23-21, Exode, et écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tu auras des ennemis, mais je serai l'ennemi de tes ennemis. Il ne nous dit pas, il ne nous dit nulle part que nous n'aurons pas d'ennemis. Nous en aurons. Amen. Les ennemis, nous en aurons. Et il sera l'adversaire de nos adversaires. Oh, ça c'est merveilleux. Et ces ennemis peuvent être des géants. Nous pouvons paraître devant leurs yeux comme des sauterelles, mais si Dieu m'a préparé la place dans ce pays où coule le lait et le miel, Caleb dit, c'est à moi. La montagne qu'il m'a promise, elle peut être abrupte. Je peux avoir 85 ans, comme dit Caleb, mais cette montagne, Josué, elle est à moi, donne-la à moi. C'est une certitude. C'est une certitude, pourquoi ? Pas parce que je suis fort. Pas parce que je suis costaud. Mais parce que il m'a promis qu'il me ferait arriver. Il a promis aux enfants d'Israël, je vais vous conduire dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je vous y conduirai et lui seul, comme nous dit Deutéronome 32, lui seul a conduit son peuple. Il n'a pas été avec lui de Dieu étranger. Il l'a fait lui seul. Et soyez sûr d'une chose, lui seul conduira ceux qui sont destinés à l'enlèvement, à l'enlèvement. Il n'y aura pas de Dieu étranger. Il n'y aura pas de gris-gris. Amen. Il n'y aura pas de prophète qui me conduira là-bas. Tout ce que j'aurai à faire ce qu'il me demande de faire. Et lui se charge de me conduire. Frère François, est-ce que tu mérites l'enlèvement ? Non, je ne mérite pas l'enlèvement, mais il m'a promis, malgré que je ne le mérite pas, il m'a promis de m'y mener. Alors, pour moi, ça règle tout. Et pour vous, ça devrait tout régler. L'enlèvement est à vous. Et si vous vous êtes déplacé ce soir pour venir écouter, ce n'est pas pour que je vous fasse la morale ou que je vous dise ça, vous pouvez, ça, vous pouvez, ça, vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas. Non, c'est vous dire, hein, comme a dit le Seigneur lui-même à Josué, le pays, il est là, il est à vous. L'enlèvement, il est là, il est à vous. Du moins, il est à celui à qui cela a été promis. Et celui-là devrait déjà se réjouir dès aujourd'hui. Dans Nombre 13, ils paraissent, selon leur propos, ils paraissent devant leurs ennemis comme des sauterelles. Ils se sentent si petits devant les ennemis. Oh, devant ces géants du monde aujourd'hui, qui se dressent sur nous, devant nous. Nous nous sentons si petits. Nous avons même tendance à vouloir faire des courbettes devant eux. Ne faites pas des courbettes devant eux, faites des courbettes, si vous voulez, devant Dieu. Ne flattez pas les hommes, si vous voulez, louer Dieu. Dans Nombre 13, verset 31, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Laissez Moïse tranquille. Dites amen à ça. Laissez Branham tranquille. Ne commencez pas à dire, il nous a raconté des histoires. Laissez-le tranquille. C'est Dieu qui l'a envoyé à dire ce qu'il a dit. Maintenant, si, même s'il a dit que avant 80, avant 77, il y aura ceci ou cela et que cela ne s'est pas fait, laissez Branham tranquille. C'est un homme. Mettez ça de côté, ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas dans la Bible, mais prenez ce que la Bible vous dit. Il vous a appris à suivre ce que la Bible dit. Amen. Donc, laissez tranquille, ne commencez pas, ah, Branham nous a menti, Branham, non, ça n'a rien à voir. Il y a eu des ainsi dit le Seigneur, que nous avons écouté, et nous nous en tenons à ça. Ce qu'il a dit après, en marge des ainsi dit le Seigneur, ça c'est son affaire. Mais ce qui nous préoccupe, c'est ce que Dieu a dit. Alors, il dit ceci, Caleb fit taire le peuple, il dit, laissez Moïse tranquille, qui murmurait contre Moïse. Moïse n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Oui, mais il y a eu les Amalécites en chemin. Oui, mais maintenant nous sommes devant des géants. Oui, mais le pays qui est là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais qu'est-ce que Moïse a à voir là-dedans? Dieu lui a dit, conduis le peuple jusque-là, et Moïse les a conduits jusque-là. Laissez Moïse tranquille. Il dit, Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce n'est pas grave. On peut être devant leurs yeux comme des sauterelles. Mais la promesse de Dieu est plus grande encore. Nous sommes confrontés à des pandémies, nous sommes confrontés à des maladies opiniâtres, des maladies qui font peur. Par exemple, nous sommes comme des sauterelles devant les cancers aujourd'hui. Hier, je rendant visite à Mam à l'hôpital, quand j'ai appris le diagnostic qu'on a donné, ce qui m'a apaisé, c'est savoir que le combat qui se dresse devant nous, ce n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Ça va? Bon, on l'a diagnostiqué un myélome. C'est pour faire court, hein. Si vous voulez des explications scientifiques, elle va vous expliquer. C'est un cancer qui se développe dans les os, dans la moelle osseuse. Ça vient des globules blancs. Et c'est ce qui causait ces douleurs. Parfois, on ne savait pas d'où venaient ces douleurs. Tant il avait mal à gauche, tant il avait mal à droite. En fait, ce sont des douleurs. Bon, ces cellules pouvaient aller maturer dans la rate et on laisse ça tranquille. Mais retenons, Frère Abraham dit, hein, un cancer, c'est un démon. Donc, ne cherchons pas trop d'explications. Ouais. Alors. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais ce combat, même si on a tendance à être vus comme des sauterelles, ce n'est pas notre combat. Et je vous dis, Dieu est grand. À cause de la pandémie qui est là, on refuse les visites. On dit une visite par jour, par personne. Une personne par jour. Alors, moi, je pose la question, je demande-leur un peu si le pasteur ne peut pas y aller. Je n'aime pas trop me faire appeler comme ça, mais il y a des moments où ça sert à quelque chose. Ils ont demandé au service, ils acceptent, et puis après, ça pose quand même un problème, leur communication entre service et l'accueil, ça pose un problème. Mais, vous savez, le jeune garde qui était là, c'était un musulman. Ben, il me dit, mais vous, lui, regarde, votre nom n'est pas... J'ai dit, mais on m'a accordé la permission, je peux y aller. On téléphone en haut, personne ne répond. Il dit, mais je ne peux pas vous faire entrer. Moi, je dis, mais c'est bizarre. Moi, je dis, mais si un prêtre catholique, puisque Frère Branham une fois avait demandé ça, si un prêtre venait pour la voir, est-ce que vous alliez le faire entrer? Alors, il me regarde et il rigole. Il me dit, oui, et puis il appelle la dame qui était là. Il lui demande, la dame dit, pourquoi vous êtes prêtre? Moi, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. C'est quoi un pasteur? Il a fallu lui expliquer, c'était un musulman. Alors, il rigole. Finalement, on a sympathisé. Et puis, comme on ne répondait toujours pas, la sœur Béa est descendue. Bon, c'est elle qui était prévue pour hier. Finalement, je dis aux musulmans, écoutez, bon, si ce n'est pas possible, je ne vais pas vous forcer la main. Je sais que les mesures sont assez strictes. Il me regarde et me dit, laissez, je peux faire quelque chose pour vous. Comme ça. Moi, je dis, ah, Dieu est en train d'agir. Dieu a voulu que je la voie. Et il m'a dit, laissez tomber. C'est vrai, votre nom n'y est pas. Et eux, ils ne répondent pas. Moi-même, je vais vous conduire jusque là-bas. Mais d'abord, vous allez prier pour moi. Je lui ai dit, je vous promets, nous prierons pour vous. Hein? Vous allez prier pour lui, n'est-ce pas? Ne l'oubliez pas. J'ai dit, je le dirai à l'Assemblée demain. Je prierai pour vous, nous prierons pour vous. Il s'appelle Ali. Pourquoi veux-tu qu'on prie pour lui? Je n'en sais rien, mais ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous allez dans des endroits pareils et que vous voyez la main de Dieu, cela vous réconforte. Parce que lorsqu'on vous dit, c'est un cancer, vous réagissez. Mais finalement, ce qui m'a apaisé, c'est que ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Alors je me suis dit, ce soir, quand je viendrai, je vais faire comme Daniel. Je vais vous en parler. Daniel, chapitre 2. Ces choses ont été écrites pour nous instruire, n'est-ce pas? Daniel, chapitre 2. Verset 15. Daniel prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, Daniel avait besoin d'un peu de temps. Ce temps, pour quoi faire? Eh bien, ensuite, Daniel alla dans sa maison. Ma maison, c'était un peu ici. Et il instruisit de cette affaire Hanania, Mishaël et Azaria, ses compagnons. Mes compagnons, ce soir, c'est vous. Et je vous en parle ce soir. Les engageant, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est vrai, elle a déjà un âge certain. Un certain âge, on ne va pas trop demander à Dieu. Mais ma prière est celle-ci. Hein, pour le temps que Dieu lui donne à vivre, qu'elle vive ce temps-là en bonne santé. Ouais, que Dieu la relève de ce cancer. Que les douleurs lui soient enlevées. Et je suis sûr d'une chose, quand les douleurs lui seront enlevées, pendant toutes ces 2 années où elle n'arrivait plus à venir ici, eh bien, vous savez, je suis certain d'une chose, elle louera son Dieu, elle le glorifiera ici. C'est pourquoi je vous instruis de l'affaire. Ce qui est bien, c'est que Daniel et ses compagnons, eh bien, ils sont restés ensemble ici. Malheureusement, on ne peut pas le faire. On va le lire tout à l'heure. Il y a des rois qui ont proclamé des jeûnes. Les rois peuvent faire ça. Et un roi peut le faire dans la mesure où il peut fermer toutes les boutiques. Personne ne travaille. Moi, je n'ai pas cette autorité-là. Mais nous avons quand même un week-end où le monde nous donne des jours de congé. Ça va? Alors, ce qu'il y a ici, on a souvent parlé de Matthieu 18. C'est le moment de mettre ça en pratique. Matthieu 18, verset 19. C'est Jésus qui parle. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Dites amen à ça. Si deux d'entre vous s'accordent. Est-ce que nous sommes d'accord? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, nous nous accordons ce soir. Notre demande est celle-ci. On ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Vous savez, il y a eu le cas de Florence Nightingale. Vous connaissez cela? Dieu l'a guérie, mais quelques minutes après, elle s'en est allée. Mais qu'elle retrouve, on ne sait pas. Est-ce que si Dieu lui laisse des minutes, ou des mois, ou des jours, ou des semaines, ou des mois, ou des années, gloire à lui. Mais que cela ne soit plus en gémissant. Dieu est capable de lui enlever cela. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi, je vous demande, il y a un week-end que nous allons avoir, samedi, ceux qui le voudront, on est d'accord, on jeûne pour cela, on prie, on invoque la miséricorde de Dieu, ceux qui le veulent. C'est volontaire. Dites amen à ça. Ah ouais, c'est volontaire. Et on n'est pas là pour s'en vanter, moi j'ai jeûné, non, Dieu sait. Ce qui fait, nous le faisons, et dimanche, nous allons nous retrouver au culte. Nous allons avoir un culte normal et nous prierons à la fin du culte pour cela. Non seulement pour elle, pour ceux qui en ont besoin. Également, on ne les oublie pas. Mais ici, nous avons un cas qui fait qu'il est bien que nous nous y penchions. On n'est pas là toujours à être défaitiste. Ah, c'est là, frère, c'était la volonté de Dieu. Non, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Sinon, nous n'aurions pas ses promesses. Alors, nous avons le temps de nous sanctifier. Nous avons le temps de nous mettre en ordre. Si on est 2 ou 3, Dieu répondra certainement. Nous nous souvenons d'une sœur qui épouse de l'ancien pasteur, lorsque le cas a été proclamé, on s'était réunis ici quelques frères, Dieu a répondu à notre prière. La sœur est toujours vivante aujourd'hui. Nous n'oublions pas que sa mère est partie avec cette maladie. Nous n'oublions pas que ses sœurs sont parties avec cette maladie. Mais Dieu l'a préservée. Et nous croyons que Dieu a répondu à nos prières. Maintenant, cela ne veut pas dire que d'ici chez nous, nous en avons parlé dimanche, les gens ne s'en vont pas. Ça arrive que les gens s'en vont. Mais les jours qu'ils ont à passer vers la fin, que cela soit quand même des jours heureux. Amen. Mais seulement, ce n'est pas notre combat. Quand bien même, si nous pouvions faire quelque chose, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Mais, si, nous ne pouvons rien faire, nous pouvons faire quelque chose, la prière, c'est un moyen efficace. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je peux vous le lire tout de suite. Jacques dit, la prière du juste est d'une grande efficace. Amen. Alors, nous allons nous y mettre. Nous prierons là-dessus. C'est un sujet que j'ai amené ce soir à l'Assemblée. Je n'ai pas voulu faire sous forme de communiqué, prions sous mouvement. Non, non, non. Je vous instruis de l'affaire. C'est une affaire, il peut sembler être impossible, mais Dieu reste Dieu. Et dans 2 Chroniques 20, il y a un roi, justement, qui prie. Il était devant un cas difficile. C'était un fils de David. Non, nous sommes là, nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu soit sensible à notre misère. Dans 2 Chroniques 20, après cela, verset 1er, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il a eu peur. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat était roi. Lui pouvait publier un jeûne. Il pouvait faire fermer les boutiques. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas vous empêcher d'aller travailler, sinon vous aurez des problèmes avec votre patron. Mais Josaphat pouvait fermer les boîtes ce jour-là. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Oui. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Judas, à ce moment-là, c'était tout le royaume du sud, qui était réduit à cette province de Juda. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Nous pouvons poser la question ce soir. L'Éternel, notre Dieu, n'est-il pas Jéhovah Rapha? Nous pouvons poser la question ce soir. Par ces meurtrissures, ne sommes-nous pas guéris? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Pas même un cancer. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité, postérité d'Abraham, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Qui sauve, c'est toujours l'Éternel. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car Israël s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Dieu leur avait fait grâce. Mais maintenant, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ça, c'est le monde, toujours comme ça. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem, soyez attentifs. Et toi, roi Josaphat, sois attentif. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, devant cette maladie qui sème la terreur. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Amen. Ce sera Dieu qui combattra. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Écoutez ceci. Vous n'aurez point à combattre. Dites Amen à ça. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Cette délivrance vient de l'Éternel. Elle ne vient pas de la puissance d'un quelconque fidèle dans l'assemblée, elle ne vient pas de la puissance du pasteur, la délivrance, elle vient de l'Éternel. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Alors, ici, nous ne parlons pas seulement pour le cas demain. Nous allons prier. Pas seulement pour ce cas-là. Mais ce cas-là en premier lieu. Bien sûr, il y a d'autres cas que nous ne connaissons pas. Il y a de ces maladies bizarres au milieu de nous. Des hypertensions, des diabètes, je n'en sais rien. Il y a de ces maladies bizarres au milieu de nous. Parfois même, il y a des jeunes qui sont confrontés à ces maladies. Nous avons été surpris, il y a maintenant presque 2 ans, lorsque, après Sœur Angèle, que sa fille soit tombée en plein job, et puis après, elle n'est jamais revenue, elle s'en est allée. Parfois, nous pensons que ce ne sont des choses qui n'arrivent qu'aux vieux. Mais il y a des jeunes parmi nous qui ont aussi besoin de prière. Et il est question dans la Bible de prier les uns pour les autres. C'est d'une importance capitale. Quand ce genre de choses arrivent, il ne faut pas, je le répète, sombrer dans le fatalisme, comme exactement nous voulons suivre l'exemple de Daniel, Daniel, lorsque le roi demande quelque chose d'impossible, lui-même ne se souvient pas du rêve qu'il a eu. Il ne s'en souvient plus, mais alors c'est parti. Il m'arrive parfois quand je rêve, tiens, il y a quelques jours, j'ai rêvé de quelque chose qui m'a fait rire dans le rêve. Je me suis réveillé en riant. Mais je suis incapable maintenant de vous dire quel rêve j'ai eu. Et j'ai pensé à Nebuchadnezzar. J'ai dit, donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Moi, je vous assure, Dieu sait, je me suis réveillé en riant. Mais de quoi est-ce que je riais, je ne sais plus. Quel rêve est-ce que j'ai eu, je ne sais plus. Donc, ce que Nebuchadnezzar demandait, c'était quasi impossible. Maintenant, je peux vous le dire, je me suis levé en riant. Donnez-moi mon rêve. Vous allez me trouver bizarre. Parce que je voudrais encore rire comme je riais dans le rêve. Mais il n'y a que Dieu qui peut rappeler ce rêve-là. Tout comme avec Daniel. Daniel n'a pas sombré dans le fatalisme. Daniel est allé trouver les frères. Il leur a dit, écoutez, que Dieu nous fasse miséricorde. Invoquons l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Ça va? Et nous croyons que Dieu répondra. Nous le croyons de tout notre cœur. Et il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des besoins ici, à ce que nous prions pour eux. Et ne les oublions pas dans nos prières. Quand les Madianites en ont fait voir de toutes les couleurs aux Israélites, eh bien, Gédéon était en train de moudre le grain en cachette pour le cacher des yeux des Madianites, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Dans Juges 7, d'abord dans Juges 6, Dieu lui dit, c'est toi qui délivreras Israël de la main de Madian. Amen. Gédéon dit, mais ce que tu me demandes là, Seigneur, c'est impossible. Verset dans 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et cela, quand Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie, Gédéon pouvait alors dire aux Madianites, je viens au nom de l'Éternel des armées, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, ce que nous voulons faire, est-ce que c'est lui qui nous envoie? Mais bien sûr, il nous a dit, vous prierez pour les malades. C'est une façon de montrer, de témoigner de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a demandé de faire. Et il nous dit, qui ça? Il dit ceci à Gédéon, c'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Eh bien, ça peut arriver que vous soyez très petit là où vous êtes. Ça peut arriver que vous soyez le plus pauvre là où vous êtes. Votre richesse n'a rien à voir avec le problème. Votre grandeur n'a rien à voir avec le problème. C'est Dieu qui vous envoie. Et si Dieu vous envoie, allez-y au nom de Dieu lui-même. Et le nom qu'il nous a donné est un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou doit fléchir. S'il nous envoie avec ce nom, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'hôpital pour ça. À partir de Jésus, s'il nous envoie avec ce nom, nous pouvons combattre ce Goliath au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme dit la Bible, tout genou fléchira devant ce nom merveilleux. Nous savons tous que nous sommes de passage sur la terre. Nous le savons. Mais si nous pouvons être en bonne santé jusqu'au jour où nous allons partir, ben, Dieu soit loué. Et cette bonne santé, nous voulons la mettre au service du Dieu vivant. Comme cet homme à la porte appelé la belle, lorsqu'on lui a redonné ses jambes, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à courir dans la rue. Il est entré dans le temple et il a commencé à glorifier Dieu. Les jambes que Dieu venait de lui redonner, eh ben, il les a utilisées à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui se passera certainement si Dieu nous accorde grâce. Alors, pour aller combattre les Madianites, dans au chapitre 7, juge Jérubal, verset 1er, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » C'est pourquoi je vous disais ici au début, au commencement de la prédication, je disais, il n'y a aucun prédicateur qui peut se lever pour dire, « C'est par ma puissance. » Parce que c'est déjà arrivé que certains essaient de justifier leur ministère par le fait que Dieu ait guéri telle personne suite à leur prière. Non, cela n'a rien à voir avec le ministère. C'est Dieu qui délivre. La délivrance, elle vient de lui. S'il ne nous l'accorde pas, ben, c'est que c'est lui qui ne nous l'accorde pas. S'il nous l'accorde, c'est lui qui nous l'accorde. La décision est à lui. Et la gloire, que la gloire lui soit rendue. Amen. Dans Deutéronome 8, Dieu nous met en garde. Lorsque, après avoir traversé le désert, après avoir vaincu le désert, après être passé par les serpents brûlants, par les scorpions, par les lieux arides, après avoir vu l'eau jaillir du rocher, le plus dur, Dieu nous met en garde. Il dit ceci au verset 14 de Deutéronome 8. Après que nous ayons multiplié notre gros et notre menu bétail, il nous dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Ça veut dire, restons humbles. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce qui signifie que si Dieu nous fait grâce, et nous croyons qu'il nous fera grâce. Moi, je ne pars pas par une défaite. Hein. Je pars par... En tout cas, ce n'est même pas une défaite. Avec Dieu, tout est victoire. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Mais ce que nous voulons dire, ce ne sera pas une raison pour aller dire, nous, à l'Assemblée, à la rue de Firland, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes des demandeurs devant Dieu. Et nous demandons, ayons à l'esprit que nous demandons des choses que nous ne méritons pas. Mais Dieu est plus que capable de nous les accorder. C'est donc sa bataille. Quand il nous dit, le pays est devant toi. Partout où foulera la plante de tes pieds, c'est à toi. Eh bien, quand il nous dit, ta foi t'a guéri, donc pour la guérison et toutes ces choses, c'est que nous sommes arrivés à nous saisir des promesses qu'il nous a faites. Ces promesses, normalement, elles nous sont inaccessibles. Elles sont difficiles. Comment voulez-vous obtenir la promesse de la guérison d'un cas cancéreux? Alors que, bon, pour les médecins, c'est un cas perdu d'avance pour eux. Mais, maman va plus ou moins bien, ne vous en faites pas. Je ne croyez pas qu'elle est à l'article 2, mais cette maladie, nous savons comment ça marche. Elle ronge. Mais si c'est difficile de pouvoir obtenir ce que nous demandons, Dieu est toujours bon dans sa bonté. Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons terminer par là. Dans Colossiens chapitre 1er. Au verset 12, il nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Amen. Nous étions incapables. Qui nous rend capables? C'est le Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous étions incapables, mais il a fait de sorte que nous soyons capables. Que la guérison, elle est là. Pour le diabète qui vous tracasse. Pour la tuberculose qui vous tracasse. Quand vous lisez les messages pour les cancers qui vous tracassent, quand vous lisez les lignes de prière, toutes ces maladies sont citées. Et elles ont été vaincues. Et c'est le même Dieu ce soir que nous voulons implorer. Moi, j'en appelle. C'est bon, les gens, il y en a qui travaillent jusque vendredi, on va laisser jusque vendredi. Mais pour ceux qui le pourront, samedi et dimanche, à partir de chez eux, on peut prier ensemble. Ça va? Pour les cas de l'assemblée. Parce que l'assemblée, c'est aussi ça. Que l'on prie les uns pour les autres. Il y en a qui ont besoin de prière. Et lorsque nous en arrivons à des cas pareils, cela nous rappelle que nous avons besoin de prière. Parce que parfois, nous avons trop souvent tendance à oublier. On veut écouter des grandes choses. Ce que les tonnerres ont dit, ce que les tonnerres n'ont pas dit, c'est très bien tout ça, mais il y a une chose quand même aussi simple à faire, c'est de savoir prier les uns pour les autres. Dites amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. La délivrance, elle ne nous appartient pas, c'est la délivrance de l'Éternel. La victoire, elle ne nous appartient pas, c'est la victoire de l'Éternel. Le combat, c'est le combat de l'Éternel. La décision lui appartient. Tout ce que nous avons fait ce soir, c'est instruire les compagnons d'armes du cas, des cas qui nous préoccupent ce soir et dont nous voulons remettre devant le Seigneur notre Dieu. Prions ce soir. Père céleste, nous venons à toi humblement, reconnaissant que nous sommes limités, mais que toi, tu es le Dieu illimité. Rien ne résiste à ta parole. Ce que ta parole dit, oh, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été prononcée. Et si tu dis seulement un mot, comme disait le centenier au Seigneur, oh, si tu dis seulement un mot, certainement mon serviteur sera guéri. Oh, Seigneur, c'est ce qui est arrivé. Tu as prononcé le mot et quand les gens ont vérifié l'heure de la guérison du serviteur, c'est exactement lorsque tu as prononcé sa guérison, lorsque tu l'as commandé. Si tu commandes une seule guérison pour ta servante qui est là-bas alitée à l'hôpital, nous croyons de tout notre cœur que tu agiras. Et en faveur des autres qui sont au milieu de nous ce soir, oh, qui souffrent de diverses maladies, qui les troublent, qui les tracassent, oh, des jours entiers, des semaines entières, oh, où ils doivent chaque jour se piquer, où ils doivent chaque jour prendre des comprimés, toutes sortes de drogues que nous pouvons avoir pour notre guérison. Oh Père, nous te demandons tout simplement, pendant que nous sommes incapables de nous saisir nous-mêmes, oh, de la guérison promise, parce qu'il nous a bien été dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Père, vraiment que nous puissions nous saisir de cette guérison. Ton serviteur disait souvent, le Seigneur ne peut plus rien faire pour vous aujourd'hui. Ce qu'il devait faire pour vous, il l'a fait. Et nous le croyons de tout notre cœur. Cette guérison, elle est là à notre portée. Si nous n'arrivons pas à l'atteindre, toi, tu es celui qui nous rend capables pour que nous puissions l'atteindre et la prendre pour notre compte. Et l'honneur, la gloire, oh, la louange ne reviendront qu'à toi seul, Seigneur. Nous te louerons de tout notre cœur. Nous te servirons de tout notre cœur. Oh, Père céleste, nous te glorifierons de tout notre cœur. Oh Dieu, aide-nous, Père céleste, à ce que nous puissions, oh Père, passer sous le flot du sang merveilleux de Jésus-Christ de telle manière que nous soyons justifiés, que nous soyons lavés complètement, purifiés par le sang, oh, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, afin que nous puissions élever vers toi des mains pures, t'adressant par des lèvres purifiées, t'adressant nos prières et nos supplications par l'Esprit Saint. Sois béni, sois loué. Nous te demandons de nous assister, Père, oh, de nous agréer alors que certains vont se mettre en campagne, vont chercher ta face, oh, pour obtenir cette guérison que tu nous as déjà donnée à plusieurs reprises pour plusieurs maladies. Et même ce que tu as pris auprès de toi, nous savons qu'aujourd'hui, ils sont bien heureux. Que tu sois tout simplement notre aide, notre secours. Nous levons nos yeux vers toi. Comme disait David autrefois, qui sait si Dieu n'aura pas miséricorde de moi? Oh, qui sait si tu n'auras pas miséricorde de nous? Si tu nous fais miséricorde, certainement nous obtiendrons ce que nous te demandons. Oh, que ta servante puisse passer ses derniers jours en bonne santé, sans douleur, afin qu'elle puisse t'honorer, te glorifier, te rendre gloire, témoigner de ta bonté. Oh Père, non seulement elle, mais tous ceux qui en ont besoin, et dire et que chacun puisse ainsi témoigner, comme cette Samaritaine autrefois avait témoigné, qu'il y avait un homme qui lui a dit tout ce qu'elle avait fait, ne serait-ce pas lui le Messie. Que lui-même nous dise encore en ce jour ce que nous avons fait, afin que nous puissions corriger et que nous puissions apporter le témoignage, et que tous ceux qui ont le cœur droit puissent croire et venir à toi pour te servir. Nous te bénissons, nous te louons, nous te remettons toutes choses entre tes mains et maintenant nous te remercions de nous avoir permis de soumettre ce problème entre nous, que nous puissions nous y accorder et que le reste, Père, nous te laissons cela sous ta conduite. Et pour ce jour, nous te demandons de nous assister. Alors que nous terminons notre réunion, veuille nous raccompagner. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.